Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du théâtre de l'Alliance française où l'on attend à la rentrée, bien sûr, notre fidèle public pour un masque et la plume estival, puisque l'émission ne s'arrête pas, consacrée à l'actualité du cinéma avec en chair, en os et en verve, sans problème de téléphone ni de parasite, les totalement déconfinés Charlotte Lipinska de Vogue, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Pierre Murat de Télérama.fr et Nicolas Chalère de l'Obs. On parle ce soir de quatre nouveautés sorties en salle, je dis bien en salle, Tout Simplement Noir, Jumbo, Les Parfums, The King of Staten Island et de trois rééditions. Le film de Stephen Frears, The Heat, Babyface d'Alfred Green et Point Limite de Sidney Lumet. Et dans le courrier de la semaine, les auditeurs répondent vertement, ça va faire plaisir à Pierre, aux auditeurs qui avaient exprimé leur exaspération à propos des parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Voici donc une deuxième salve et même deuxième vague, mais à contre-courant, Lise Massé de Bourg-les-Valence s'insurge contre les auditeurs du masque si critique envers les parapluies. J'ai l'impression que c'est un feuilleton qui va durer tout l'été chez nos auditeurs. Oser traiter, dit Lise Massé, oser traiter le film de nanar. Mais c'est scandaleux. Moi, j'y vois un gros bonbon acidulé, un ovni du cinéma, une musique inoubliable.
Je crois que c'est plus méchant encore de dire ça.
Tu trouves, toi? Une musique inoubliable de Legrand que je considère comme un génie. On y parle de mariage forcé, de guerre d'Algérie, de lutte des classes et d'avortement. Et vos auditeurs accuse le film de mièvrerie. Cette lecture bas du front me désespère. Bonjour, mon émission préférée, nous écrit Caroline d'Annecy. Et merci à Pierre Murat d'avoir eu le mot de la fin concernant les parapluies de Cherbourg. Pour nous, les fans de Demy, avoir les parapluies comme film préféré, c'est partager le bonheur d'appartenir à un petit cercle de happy few et se serrer ensemble dans notre cocon coloré en but à l'adversité. Plus qu'un chef-d'œuvre, un film dans lequel et avec lequel on vit. Pour Jean-Luc Clairet, Nicolas Chalère a parfaitement le droit d'avoir mauvais goût. Pauvre Nicolas, yes. Il va lui falloir dorénavant porter le poids, nous dit Jean-Luc Clairet, de cette faute professionnelle, jusqu'au jour où à son tour il découvrira que les parapluies de Cherbourg est avec Les Demoiselles de Rochefort le plus beau film du monde.
C'est moi la minorité dans l'histoire.
Madame Millaret, j'en ai eu plein d'autres, mais Madame Millaret, elle nous reproche d'avoir recommandé de visionner sur Netflix les parapluies de Cherbourg. On peut le revoir autrement sur une plateforme légale de streaming, mais c'est légal, Netflix, ou en DVD empruntable dans toute bonne médiathèque. Je travaille, nous dit Madame Millaret, dans une médiathèque. Bien souvent, l'abonnement aux médiathèques est très accessible, voire même gratuit. C'est important de montrer que la culture peut être accessible à toutes les bourses et relève aussi du service public. Enfin, Anne Faucon, du cinéma Utopia de Saint-Jean-l'Herme en Haute-Garonne, me reprend non et non. Nuestras Madres, le film Caméra d'or de César Diaz, dont on parlait la fois dernière, n'est pas qu'en VOD, comme je l'ai dit. Des salles l'ont passé dès leur réouverture, c'est notre cas dans ce cinéma Utopia. Nous avions aimé le film à Cannes, il mérite, ça je suis bien d'accord, d'être défendu sur grand écran. Du coup, ce serait bien de l'annoncer pour inciter d'autres salles à sortir ce beau film. Et merci pour vos émissions. Voilà, donc on arrête le feuilleton si vous êtes d'accord sur les parapluies, parce que je me vois pas passer le mois de juillet et août à ouvrir et refermer les parapluies de Demy. Allez, on commence avec Tout Simplement Noir, le film de Jean-Pascal Zadi qui devait sortir le 15 avril, qui a retrouvé les salles le 8 juillet après des semaines où le meurtre de George Floyd a provoqué dans le monde, vous le savez, des manifestations contre le racisme, un film qui rassemble l'humoriste Fabrice Eboué, Ramzi Bedia, Liliane Thuram, Joe Starr, Meda Bedia, Jonathan Cohen, mais aussi Cyril Hanouna, Eric Judor, Ahmed Silla, je peux pas citer tout le monde. Il y a Mathieu Kassovitz, il y a Fadili Camara, il y a Lucien Jean-Baptiste, il y a pas Jean-Marc Lalanne, mais il y a un acteur raté, JP, joué par Jean-Pascal Zadi, qui décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France. Un 27 avril pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, projet qui va se doubler de la rédaction d'une charte inédite de l'homme noir nouveau. Tout cela ne va pas sans querelle, dont une dispute à la machette entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste. Film qui se veut drôle, qui ne pensait pas non plus être rattrapé par une actualité aussi grave. Pierre.
Eh ben, je suis très partagé parce que on est dans une émission qui parle de cinéma, donc on parle.
Oui, absolument. C'est, oui, c'est bien
alors,
de le rappeler.
C'est bien ça le problème avec ce film, c'est que, alors très franchement, pour être court, de cinéma, de mise en scène, il y en a absolument pas. C'est pas grave, mais
c'est pas d'accord. Mais
bon, oui. Moi, pour moi, je trouve ça. Mais alors. C'est pas nul, c'est inexistant au point de vue mise en scène. Voilà. C'est-à-dire que moi, je demande quand même à un film politique, engagé, généreux, dont je vais juste dire deux mots après, qu'il soit, mais au moins, à peu près cadré. Or, sinon, à la fin, avec la séquence, en effet, très réussie, où on voit le héros se faire alpaguer par des flics pas très gentils, et qui est traité, alors là, avec, en effet, de loin, avec beaucoup de dignité et de pudeur, et la rencontre avec Omar Sy à la fin qui est bien, tout le reste c'est des numéros filmés comme ça, un peu n'importe comment. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a des moments très drôles. Tu faisais allusion, Jérôme, à la dispute entre Eboué...
Qui est presque d'anthologie.
Voilà, ça c'est vraiment drôle parce que ça devient d'un burlesque presque à la Black Edwards, quoi. C'est-à-dire que ça devient absurde. Et à partir du moment où ça devient absurde, c'est très bien. Et puis moi, j'aime bien le moment avec Kassovitz, qui dit à un moment donné à son assistant.
Elle est incroyable, cette scène.
En train de préparer un film.
Qui est au troisième degré, hein.
Oui, c'est au troisième degré.
Ah, c'est à tous les degrés.
Oui, absolument. Il lui dit, je vous ai demandé des noirs, vous m'amenez des blacks. Je vous demandais l'Afrique, vous m'amenez Montreuil. Bon. Et il y a donc, dans la démarche des deux réalisateurs, une autocritique et une critique, à la fois. Une critique du racisme et une autocritique parce que il ne se fait pas de cadeau, le réalisateur, qui me paraît très bien. Dommage qu'il n'y ait pas de mise en scène.
Charlotte. Il y a une chose quand même, Pierre, là, que tu n'as pas dit, c'est que c'est extrêmement drôle. Ouais. Parce qu'on parle de cette engueulade, effectivement, avec Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué.
Sur le principe des scénettes, hein.
Voilà.
Faut
alors,
le savoir.
C'est pour moi la limite du film, c'est qu'effectivement, on a une succession de scènes qui sont plus ou moins réussies et pour la quasi-totalité extrêmement réussies, mais on enfile un petit peu les courts-métrages et pour moi sur la trajectoire, on va dire, de la narration du film, il ne se passe pas grand-chose, ça se répète. Néanmoins, je trouve que il joue des préjugés, des stéréotypes de manière absolument pas politiquement correct et ça fait du bien. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film français qui soit à ce point corrosif, qui mette du poil à gratter
Et encore
partout.
Une fois, dans ce contexte dans... auquel on pense
absolument.
À chaque plan et à chaque image
absolument.
Et à chaque dialogue.
Et il arrive à faire jouer donc les guests, comme on dit, tous casting prestigieux que tu as relevé, Jérôme, ils jouent tous de leur image de manière tellement plus loin et drôle que la série 10%, par exemple, à laquelle on peut penser, qui reste très très tiède sur l'image de chaque personne. Donc c'est vrai que ce personnage de JP, un peu Don Quichotte, un peu naïf, maladroit, qui va partir dans le monde des requins du showbiz pour convaincre tout le monde de participer à sa marche, parce qu'il le dit, un noir qui marche, c'est un noir qui n'est pas assis. Bon, déjà, moi, ça me fait beaucoup rire, ce début du film. Je trouve ça vraiment extrêmement drôle, réussi. Après, c'est vrai que Pierre, il n'y a pas beaucoup de mise en scène, mais l'enjeu du film, ouais. Il est clairement
mais
pas
la,
là.
Mais la, c'est une esthétique...
Il est pas là.
Jean-Marc n'a pas l'air d'accord.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est un mockumentary, donc
oui,
c'est ça.
Le
c'est
fond documentaire.
Qui fait
voilà.
Un documentaire.
C'est ce qu'on a vu depuis Spinal Tap.
Donc la mise en scène, effectivement, on peut la juger pauvre, mais dans le film, elle est référée à cette
oui.
Équipe
ah,
qui
oui.
Fait un produit...
C'est référé pauvre, donc c'est pauvre.
Absolument, mais justement le film ne l'est pas sur l'ensemble parce que oui. Pour moi il fait partie des films qui gagnent la partie en une scène. C'est-à-dire que tout à coup, lorsque le film arrive au cœur de ce qu'il veut dire, là il fait une démonstration de cinéma qui est assez exemplaire, c'est-à-dire qu'il filme un contrôle de police
oui,
et tout à coup, exactement,
oui,
sauf que pour moi ça fait qu'il y a du cinéma au bon endroit et que finalement c'est vraiment un film de mise en scène parce que c'est de la pensée, c'est-à-dire qu'à l'endroit où faut qu'il y ait un coup de cinéma, le cinéma prend totalement en charge le discours et le film à mon avis devient fort grâce à ça et donc que tout le reste soit filmé comme une une série de sketchs. En plus, comme c'est un faux documentaire, à mon avis, c'est pas la question, quoi, que ce soit bien filmé. Et je pense que quand il faut que ce soit bien filmé, à l'endroit stratégique où le film doit marquer un point de cinéma, il le fait. Donc, pour moi, de ce point de vue-là, il est assez exemplaire. Pour revenir à ce que disait Jérôme au début, je trouvais que le contexte jouait presque contre le film. C'est-à-dire que le contexte est tellement tendu et grave qu'au début, le film me paraissait quand même excessivement frivole et presque dans cette autodérision qui faisait que était presque délégitimé le combat du personnage principal qui est un peu un loser sympathique, jusqu'à ce moment que je décrivais où tout à coup il renverse complètement ce grief qu'on peut lui faire et en fait il prend totalement la mesure de la gravité de la situation, le film. Et pour moi, les 20 dernières minutes en fait en font tout le prix.
Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le papier, moi c'était tout ce qui m'effrayait, ce casting très télévisuellement compatible, ce procédé du faux reportage effectivement qu'on a vu de Spinal Tap à C'est d'arriver près de chez vous ou jusqu'aux clés de bagnole, mais là sur un esthétique plus télévisuel. Et je trouve la finesse d'écriture de Zadie assez incroyable. Il y a vraiment un côté candide, quoi. C'est vraiment ce personnage, il est un peu nul, c'est un mauvais acteur. On s'en rend compte avec la scène de casting et Kassovitz qui est hilarante, et la manière dont il renvoie dos à dos, je trouve, le racisme plus ou moins ordinaire, le communautarisme et la victimisation un peu opportune, tout ça. Enfin, il mélange tout ça avec une finesse et jusqu'à même, je trouvais que le sketch le moins drôle était, enfin, la participation la moins drôle était celle d'Éric Judor à un moment. C'est pas la scène la plus inspirée. Et la manière dont il revient à la fin avec le retour du père, je vais pas trop raconter, mais je trouve ça très très fin et ça dit des choses beaucoup plus subtiles que la forme ne peut laisser paraître comme ça. Donc je trouve vraiment que c'est une comédie à la fois est vraiment, vraiment hilarante. Il y a la discussion à la soirée entre Joe Star, Dorasso qui est pas considéré comme un vrai noir, et puis la journaliste, il y a une journaliste aussi qui débarque, enfin c'est hallucinant. Je trouve vraiment ce film est très très drôle et beaucoup plus fin qu'il en a
un quart. Ils arrivent à une chose qui est quand même très très étonnante, c'est comment traiter, on va dire, le problème Dieudonné, c'est-à-dire cette figure qui est quand même aussi très très forte dans la communauté, comment l'aborder dans le film, la manière dont ils le font, et une intelligence
qui n'est pas au générique de ce film. Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadie. Je suis absolument d'accord avec Jean-Marc. Moi, au début, j'étais gêné parce que sans cesse, ces événements terribles, tragiques et mondiaux me revenaient à l'esprit, à l'oreille et à l'œil. Et puis finalement, au fur et à mesure que le film avance, on finit par tirer le meilleur profit, je trouve, de ce film. Tout simplement noir. The King of Staten Island, le nouveau film assez long, il faut dire, hein, c'est presque 2 heures.
Oula, c'est au-delà de 2 heures.
2h15 de Jude Apatow, sorti le 1er juillet avec Pete Davidson, encore un humoriste. Il a 26 ans et c'est, on peut dire, son portrait romancé. Pete Davidson est en effet le fils d'un pompier new-yorkais qui a péri lors des attentats des Tours Jumelles et il est à la fois réellement bipolaire et atteint de la maladie de Crohn. Et dans le film, il se prénomme Scott. Il est traumatisé par la mort de son père pompier. Il avait alors 7 ans. Il fume de l'herbe. Plus que de raison, il est un peu plus tatoué que Jean-Marc Lalanne. Il rêve d'ailleurs d'ouvrir un restaurant, salon de tatouage. Je ne sais pas si c'est comme ce qu'il veut faire. Il vit toujours, ça n'est pas ton cas, au crochet de sa mère infirmière, dont il ne supporte pas la nouvelle liaison avec un autre pompier. Voilà, c'est dans le quartier new-yorkais de Staten Island, un film sur un sujet dont... En général, je ne supporte pas l'expression, tellement je la trouve lourde, qu'est le travail de deuil, mais c'est vraiment ça, où je trouve que Pete Davidson excelle dans l'autoportrait romancé. Est-ce qu'il fallait pour autant un film aussi long? Je n'en suis pas convaincu, mais je vous pose la question, Nicolas.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que le film est mis à disposition des salles et ce n'est pas une sortie officielle. C'est-à-dire que ça s'en dit long sur le statut d'Apatow qui, quand même, est le grand Manitou de la comédie américaine des années 2000.
Enfin, on peut le voir en salle, disons.
On peut le voir en salle, mais il n'y a pas de promotion. C'est-à-dire qu'ils le mettent à disposition. Il est sorti, je crois, aux États-Unis directement en VOD, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça dit à quel point Apatow est un peu dans le creux de la vague, alors que il reste, je trouve, une des voix les plus chaleureuses et passionnantes de la comédie américaine. Et ce film en est la preuve parce qu'il nous avait laissé son dernier film il y a 5 ans qui s'appelait Crazy Amy, qui était vraiment une petite déception. Et là, on retrouve ce qui, moi, je trouve, fait la beauté du cinéma d'Apatow, c'est la sensation vraiment de vivre, de cohabiter intimement avec des personnages, en général des personnages assez inadaptés, qui ont du mal à quitter l'enfance. C'est vraiment la grande question d'Apatow.
Celui-là, c'est du lourd, hein.
C'est du lourd. Et là, en plus, il y a la question du deuil qui s'ajoute. Il y a aussi la description d'une communauté qui est la communauté des pompiers de cette working class, de cette classe ouvrière de Staten Island, qui est un quartier de New York, et avec derrière aussi, je pense, une peinture, je trouve assez belle, de l'Amérique qu'on qualifiait souvent de l'Amérique de Trump, alors que là, Trump, c'est le seul moment où on évoque Trump, je crois que c'est pour faire une blague, et ça, je trouve assez
beau.
C'est
pas le sujet, en tout cas.
Voilà, c'est pas le sujet du tout, et je trouve ça beau aussi de raconter ça aujourd'hui. Et puis, ce qu'il a toujours su faire aussi, et qui est très touchant dans, chez Apatow, c'est de décrire des films sur mesure pour des jeunes gloires du stand-up, et de les mettre en avant, et là, c'est vraiment le cas avec Pete Davidson, qui est vraiment un corps assez fascinant, et en même temps, qui finit par révéler ça, toute sa, son humanité et la tendresse du personnage.
Tu dis pas qu'il accepte de jouer son propre personnage. C'est ça. Il y a... jusqu'au bout de la vérité, y compris médicale. Hein.
C'est étonnant.
Mais il est d'ailleurs co-scénariste, co-producteur, donc c'est à se demander si c'est pas un film autant de Davidson que de Apatow.
C'est ce qu'a toujours fait Apatow d'une certaine manière avec ses acteurs. Il écrivait avec eux. Et puis il y a aussi ce que j'adore chez Apatow, que je retrouve là, c'est le timing comique et l'humour, parce que sous ces personnages inadaptés, donc ce Pete Davidson, la différence avec nous, c'est qu'ils partagent certaines névroses, mais surtout ils ont un humour dingue, et le rythme du jeu, le rythme du dialogue est retrouvé, notamment Marisa Tomei, qui est une actrice qu'on voit pas souvent
dans le rôle de la mère. Mais vous trouvez pas ça trop long?
C'est interminable, c'est bien le problème. M'a semblé vraiment très long, surtout qu'une fois posé ce personnage effectivement d'ado un peu mal dégrossi, pas fini,
et malade
et inadapté, enfin tout ce que vous voulez, et ses rapports avec sa sœur, sa mère et ses copains qui sont extrêmement justes, parce que effectivement tout est porté par des dialogues vifs, drôles, dont certains se demandent même s'ils sont pas semi-improvisés sur le tournage, tellement il y a une impression de sincérité et de, comme disait très justement Nicolas, qu'on vit vraiment un quotidien avec eux. Maintenant, sur un film de 2h15, il faudrait quand même qu'il se passe un petit peu quelque chose, et moi je trouve que c'est la limite du film, c'est que malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour eux, effectivement on se dit une soirée avec eux comme potes c'est bien sympa, bah, quand même au bout d'une heure, une heure et demie, deux heures, il ne se passe toujours rien. Donc moi c'était la frustration pour moi du film, parce que par ailleurs
je vois pas trop ce que tu veux dire par il se passe rien en fait, Charlotte.
Ce que tu vois c'est quand même la
métamorphose d'un homme qui passe d'une extrême dépression à une réconciliation avec la vie. Donc pour moi il y a vraiment un trajet.
Mais oui, il y a un trajet, mais en fait tu la devines très vite pendant le film. Est-ce qu'il faut pour autant que ça dure 2h15? J'ai des vrais doutes.
La condition du film.
Pour toi, c'est la
condition du film et c'est son sujet.
La longueur.
La lenteur qu'il faut pour accomplir ce travail, c'est le sujet du film et il faut le faire sentir au spectateur. Et cette lenteur, moi, elle ne me pèse jamais. C'est-à-dire que le temps de s'installer avec ces personnages, il est totalement mis à profit de mon expérience de spectateur. Et je pense qu'il faut aussi cette lenteur-là, cette longueur, cet étirement des scènes pour que cohabitent de manière aussi harmonieuse l'extrême farce et l'extrême mélodrame. C'est-à-dire qu'il a quand même cette faculté à passer de l'hyper cheesy, où c'est vraiment très 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 sucré sur la sentimentalité.
Il n'y a pas de farce.
Il y a des choses hilarantes quand même.
Oui, mais c'est sur un mode assez presque naturaliste.
Et je trouve que vraiment, il réussit à ce que ça ne se neutralise pas. C'est-à-dire que le film est vraiment assez potache par moment, parce que ce personnage est quand même une espèce de glandeur. Il y a quand même des gags qui sont un peu, un peu potache. Et puis des choses vraiment qui sont du mélodrame. Et je trouve que pour passer avec autant de finesse, autant de nuances de l'un à l'autre, il fallait cette lenteur-là. Et moi, je pense aussi que c'est tout le temps très très beau chez Judd Apatow, cette expérience du temps. Et je pense que c'est vraiment un grand cinéaste. Et qu'on le voit, on en voit une fois de plus la démonstration avec ce film.
Pierre.
Eh ben, moi, je sais pas ce qui s'est passé pendant le déconfinement, parce que j'ai changé. Ou alors, j'ai changé moi et je me suis infantilisé. Ou alors, Judd Apatow a beaucoup changé lui aussi et il a mûri. Parce que moi, je dois dire, contrairement à toi, Jean-Marc, j'ai jamais considéré Judd Apatow comme un grand cinéaste. C'est-à-dire que 40 ans, toujours puceau, en cloque, mode d'emploi. Funny People, qui était une horreur absolue de longueur. Et alors là, j'ai trouvé qu'il avait la grâce. Je trouve qu'avec ce personnage, qu'il n'a pas donc inventé, puisqu'il l'a, comme vous l'avez dit, il l'a trouvé, mais la dégaine du personnage, cette espèce de mélancolie burlesque, lente qu'il a, avec des dialogues absolument crépitants. Moi, j'ai pensé à le vois un peu partout, mais à Woody Allen, enfin genre Manhattan, cette période-là. C'est-à-dire cette espèce de vivacité dans les dialogues, tout en étant un rythme très très lent, avec des répliques tout à fait hilarantes, quand par exemple il dit, le jeune à sa copine, il dit, mais tu as pas joué? Il dit, oh, si, je jouis à la Charlie Chaplin. Tu veux dire quoi, en muet? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Et c'est très insolent, c'est tout le temps insolent. Et sur la longueur, je trouve qu'il il arrive justement, je suis d'accord avec toi là, Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est la longueur qui fait que l'évolution des personnages et l'évolution du futur beau-père, de la mère aussi, tout ça, il a besoin de temps pour
l'exprimer.
Ce
qui était le cas dans Funny People aussi.
Oui, mais là, pour moi, c'était totalement loupé.
C'est un grand cinéaste du temps pour moi.
Oui, ouais, mais alors là, quelquefois, le temps lui résiste, et là, je crois, il a vraiment pas résisté, je trouve que ce film est tout à fait formidable.
En tout cas, il est en salle lui aussi, c'est The King of Staten Island, le roi de Staten Island. C'est donc le nouveau film de Judd Apatow, Jumbo de Zoé Witok. Un premier film sorti le 1er juillet qui nous vient de Belgique avec Noémie Merland et Emmanuel Berco, soit la fille Jeanne et la mère Margaret. La mère est extravertie, la fille du genre timide, voire même asociale. Elle est gardienne de nuit dans un parc d'attractions, autant dire qu'entre ces deux femmes, pas de place pour un homme. Et voilà que Jeanne se met à éprouver des sentiments très forts pour celui qu'elle baptise Jumbo, qui n'est pas un éléphant, c'est le manège fou du parc qui s'illumine la nuit, qui est haut de 9 mètres, qui pèse 15 tonnes quand même, et auquel elle prête assez de vertu pour en tomber totalement amoureuse. Ça fait une nouvelle. Là encore, je ne suis pas convaincu que ça donne un film. Je précise que Zoé Witok se réclame de Crash de Cronenberg et dit s'être inspirée d'Erika Eiffel, cette américaine qui était tombée amoureuse de la Tour Eiffel au point de l'épouser. Charlotte.
Ben moi j'aurais adoré aimer ce film, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un sujet extrêmement fort qui est assez peu traité au cinéma, donc je découvre, du coup j'ai été faire des recherches, objectophile, enfin l'objectophilie qui est
c'est même l'objectosexualité.
Ben l'objectophilie étant c'est d'avoir des sentiments amoureux et surtout une attirance érotique pour des objets. Alors moi j'ai découvert un monde s'ouvre à moi et je trouvais ça sur le papier hyper intéressant. Après comment dire, il y a je trouve ça c'est quand même un premier film, on va le dire, donc je trouve ça franchement prometteur, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, il y a un travail sur la lumière, sur toute cette ambiance de fête foraine.
Et le manège est...
Voilà, le manège
il
et tout
a
ça.
Cette main à la
mais
King Kong.
C'est quand même, à mon sens, pas du tout abouti et ça amène malheureusement à certaines scènes qui sont presque embarrassantes, parce que si on n'est pas embarqué dans la psychose, je ne sais pas si ça relève de la psychose ou de la maladie mentale, donc j'y mets des guillemets, mais en tout cas, si on n'est pas embarqué dans le délire de cette jeune femme, on reste complètement à côté de la porte et enfin on ne peut pas rentrer dans le film. Moi j'ai eu beaucoup de mal à suivre son chemin psychologique pour être en empathie avec cette jeune
fille. Pourtant on m'a dit que tu avais eu une passion amoureuse avec l'Arc de Triomphe, toi une fois.
Ah ben, tu es très très bien renseigné. Et puis le film oscille et sur deux pieds entre le réalisme et en même temps du fantastique. Il y a tout d'un coup une espèce de séquence onirique. Alors évidemment on pense à Under the Skin, mais enfin on est quand même très loin de la qualité artistique et esthétique de Under the Skin. Donc là, ça fait un peu le Under the Skin du pauvre, en tout cas sur cette séquence-là. Donc j'ai été frustrée. Voilà, je trouve le sujet fort, que pour un premier film, c'est très courageux de s'attaquer à ça, mais il fallait plus d'épaisseur et que ça manque vraiment d'audace par rapport au sujet.
Pierre.
Ben c'est ça, c'est-à-dire que le sujet est évidemment tout à fait original et intéressant. L'objet du désir est très beau.
Ça ne se discute pas de toutes les manières.
Et oui, absolument. Et moi, je suis entré dans l'histoire grâce à Noémie Merland, que je trouve vraiment très bien.
Elle est
très
formidable.
Contrairement à Emmanuel Berco, alors là, c'est pas de sa faute, mais vraiment, elle est en grande forme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle.
C'est pas du tout un rôle pour elle, je trouve.
C'est là où le problème, parce que quand, par exemple, elle a des répliques comme c'est pas avec un vibro que je t'ai faite, toi, tu vois, bon. Ou bien, c'est pas ce soir que tu baisseras ton pantalon. Bon. Je veux dire. La grossièreté ne me gêne absolument pas. Mais je me demande quand même pourquoi est-ce qu'il était vraiment utile de mettre cette femme populaire, enfin qui vient de là, aussi grossière et aussi vulgaire. C'est-à-dire que c'est la vulgarité de l'ensemble. On parlait dans la dernière émission d'un film de Clouseau qui s'appelle Le Corbeau, où il y avait déjà des tas de gens, mais qui s'exprimaient formidablement, qui venaient du milieu populaire, qui étaient des salauds, et qui étaient élégants dans leur forme, la façon d'agir, même s'il s'agissait en crapule, justement. Et là, je trouve que c'est d'une vulgarité inutile. Alors, si la réalisatrice, qui, à mon avis, a de la personnalité, consentait à ne pas sombrer dans la... dans la vulgarité, parce que
oui,
par exemple,
c'est presque accessoire, la pierre par rapport au film, oui, c'est
le jus de la machine qui équivaut au sperme, enfin, je veux dire, c'est pas des très 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 bonnes idées. Voilà.
Jean-Marc.
Oui, le film semble vraiment très très raté. Il y a un grand cinéaste pour moi de l'objectophilie, c'est Marco Ferreri, que ce soit I Love You, Break Up, Ginger est mort, la relation érotisée entre un humain et un objet, il a filmé ça admirablement.
Très oublié, Marco Ferreri.
Ouais,
très
grand cinéaste oublié, absolument. Et chez Ferreri, il y a à la fois du trouble et de l'humour. Et là, pour moi, il y a ni l'un ni l'autre. Et je pense que c'est une vraie erreur de faire basculer cette histoire dans un drame psychologique familial. C'est-à-dire que si elle avait consacré plus de temps au rapport être humain-machine, à filmer le trouble de cet érotisme-là, je pense que le film aurait été plus fort. Et ce psychodrame familial avec un gentil beau-père, une mère un peu sorcière qui finalement, comme un feu, passe du rouge au vert, tout d'un coup, elle devient très gentille, elle aussi. Tout ça est vraiment très, très faible. T'as dit le mot embarrassant, je crois, Charlotte. Et effectivement, le film produit une très grande gêne, en fait.
Nicolas.
Bah oui, je suis d'accord avec vous. À un moment, il y a un personnage qui cite Lamartine, objet inanimé, avez-vous une âme? Et là, c'est Martine au manège, quoi. Le problème, c'est qu'il manque un regard, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été visiblement, elle a été directrice photo au début de sa carrière, Zoé Witok. Et effectivement, il y a un vrai sens de l'image, mais il manque. Quand on nous demande souvent ce que c'est, il manque du cinéma. Là, ce qui manque de cinéma, c'est un regard, quoi. C'est un regard sur son sujet, c'est savoir ce qu'elle a envie de raconter. Et sur le sujet, moi, j'ai envie de citer, elle parlait de Crash, qui d'ailleurs ressort au mois de juillet.
Dont on parlera dans le prochain Masque.
J'ai envie même de citer Christine de Carpenter, qui
Christine, on en a parlé au Masque.
Voilà, d'une certaine manière, parlait de ça aussi.
Absolument.
Et qui est disponible en Blu-ray aussi. Donc, j'ai envie de conseiller d'aller sur ces films-là.
Voilà. De ce fantasme-là, si
voilà,
je veux
dire. Voilà, donc j'en rajouterai pas plus, je suis d'accord avec vous, c'est un premier essai qu'on avait envie d'aimer et qui malheureusement est assez raté.
Ça s'appelle Jumbo et c'est signé Zoé Witok, Les Parfums de Grégory Magne, sorti le 1er juillet avec la grande Emmanuelle De Vos, Grégory Montel, qui joue, je vous rappelle, un agent artistique dans la série 10%, et Gustave Kervern, comme son titre l'indique, il est beaucoup question de parfum dans ce film dont l'héroïne Anne Wahlberg, jouée par Emmanuelle De Vos, est un sacré nez. C'est même la diva des arômes, la castafiore des fragrances qu'elle crée, qu'elle vend à plusieurs sociétés. Personne ne lui résiste, sauf son nouveau chauffeur, incarné donc par Grégory Montel, qui conduit très mal sa propre vie de père divorcé, mais qui n'hésite pas à tenir tête à sa patronne. Une fois de plus, je pose la question, est-ce que le sujet suffit à faire un film? Eh ben, je recommence mon interrogation, Jean-Marc.
En l'occurrence, pas tout à fait. Un peu comme Jumbo, même si je préfère ce film-là à Jumbo, c'est un film qu'on aimerait aimer davantage qu'on ne l'aime, et il y a une dimension de ratage.
Mais ce serait parce qu'on aime beaucoup Emmanuelle De Vos.
Oui, et même Grégory Montel est très bien dans le film. Par rapport à Jeu d'Apatow dont on parlait tout à l'heure, là j'ai le sentiment sans arrêt que la volonté de profondeur et de gravité parasite ce qui peut rester du principe de la comédie dans le sujet. Et que du coup ça aboutit à un film d'une très grande monotonie, où tout s'équivaut un petit peu, où ce n'est jamais ni vraiment très drôle, ni vraiment très profond, mais dans une sorte de distance moyenne entre l'un et l'autre, qui rend le film extrêmement monotone.
D'autant que tout est prévisible.
Un petit peu.
On sait ce qui va se passer.
Il y avait malgré tout, si je créditerais le film, de déjouer un petit peu le scénario de la comédie romantique pour faire prévaloir davantage un scénario de la transmission. Et alors que je pensais qu'il allait, que ça serait vraiment une comédie romantique, finalement c'est pas ça. Et c'est plutôt quelque chose qui va se transmettre entre les deux personnages. Et ça c'est plutôt malin. Mais malgré,
c'est quand même. Oui,
je suis d'accord avec toi. Mais ce qui va se transmettre d'un personnage à l'autre, c'est-à-dire cette relation entre un chauffeur et son maître, enfin, ou la personne conduite, je sais pas comment on dit, c'est quand même très très essoré au cinéma. Il y a eu Le Goût des Autres, il y a eu Green Book, il y a eu L'Exercice de l'État. On en a vu vraiment des pelletés.
Miss Daisy, son chauffeur.
Miss Daisy, bien sûr. Où, évidemment, c'est toujours le chauffeur qui va petit à petit humaniser la personne qui conduit, qui est le patron, donc rigide, froid, sans humanité, et qui va peut-être s'assouplir à l'issue du film en étant conduit par cette personne. Et là, ce que tu disais, c'est que dès le début, on pressent tout ce qui va se passer. Est-ce que lui va gagner en confiance? Est-ce que elle va un petit peu s'ouvrir et s'assouplir? Dès les 10 premières minutes, on y arrive. Alors effectivement, il n'y a pas l'idée de la comédie romantique entre eux, et tant mieux, le film nous épargne ça. Au-delà du charme de toute la sympathie qu'on a pour Emmanuelle De Vos et Grégory Montel, qui sont parfaits tous les deux, Enfin, on aboutit quand même à pas grand chose, quoi. C'est ennuyeux. Et Jean-Marc, tu disais, monotone, c'est vraiment ça, quoi.
Nicolas.
L'idée la plus drôle du film, c'est de s'intituler Le Parfum pour un film aussi inodore, quoi. Moi, honnêtement, je l'ai oublié en le regardant. Il m'en reste tellement rien. C'est, pour moi, il y a quelque chose de ce film qui relève presque de ce que la nouvelle vague, à un moment, exécrait la qualité française. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, c'est un peu représentant de ça aujourd'hui. C'est-à-dire, esthétiquement, il y a quand même et dans la conduite du récit, il y a une mollesse comme ça qui relève presque des canons assez télévisuels. Et puis, il y a aussi, il y a un conformisme assez mou, faussement ancré dans une époque, dans des névroses très actuelles. Et tout ça. Et puis il y a l'illusion de films un peu prestigieux avec ce casting effectivement où Emmanuel De Vos est formidable comme souvent. Moi Grégory Montel, je le trouvais vraiment très très bien dans 10%. Je trouve que là son espèce de charisme de cocker un peu traînant passe mal le grand écran. Voilà, donc je vais pas en rajouter. Je trouve ça vraiment sans intérêt, quoi.
Pierre. Non mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que en effet ça correspond exactement aux normes pratiquement télévisuelle, la production actuelle française. C'est-à-dire que ça ne vexe personne, ça n'ennuie personne, c'est doux, c'est calme, d'accord. Mais il y a des gens qui s'y plient plus ou moins bien, et je trouve que là, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que il y a par exemple des petits détails, mais par exemple, il y a une scène à un moment donné très courte où ils arrivent dans un hôtel et ils sont conduits par un taxi. Et ben, à un moment donné, le taxi, elle sort, et puis le taxi s'adresse à elle, parce qu'il sent que c'est la patronne, mais pas du tout à l'autre, parce qu'il sent très très bien que il n'est pas important. Et ben, il perçoit des petites choses comme ça, et je trouve ça assez joli. Plus Emmanuel De Vos, que je trouve vraiment formidable, parce que même quand elle en fait un tout petit peu beaucoup, elle m'a fait penser, avec ses cheveux un peu tirés en arrière, au film de William Wyler, L'Héritière, tu sais, comme ça, où elle est comme ça, et je trouve que vraiment, ouais, elle mérite en tout cas, une fois de plus, le visionnement d'un film. On peut aller voir aussi des films pour des
mais
actrices.
On peut aussi moi, je veux pas être méchant, parce que c'est pas la période, au moment où les gens reviennent dans les salles qu'on rouvre, je suis pas convaincu qu'avec Jumbo, avec Les Parfums, on rentre forcément service non plus au cinéma. Les gens ont aussi des raisons d'aller voir.
Pourquoi produit-on des films comme ça?
Il y a plus de mise en scène dans tout simplement. Problème, hein.
Bon, vous écoutez bien Le Masque et la Plume, un masque estival diffusé en juillet et en août, non seulement le samedi matin, mais également le dimanche soir, comme d'habitude. Et maintenant, on parle de films classiques, restaurés, remasterisés, ripollinés, tout ce que vous voulez. Et on commence avec The Heat, le quatrième film du Britannique Stephen Frears, qui était tout jeune à l'époque et qui est ressorti en salle en version restaurée le 8 juillet, un film de 1984 avec John Hurt, Tim Ross, Terence Stamp, pour obtenir sa liberté, le truand anglais Willie Parker, c'est donc Terence Stamp, a balancé ses complices et s'est réfugié en Espagne. Problème quant à leur tour, évidemment. Et 10 ans plus tard, ses ex-complices sortent de prison. Ils engagent 2 tueurs à gages, Braddock, c'est donc John Hurt, et Miron, c'est Tim Ross, qui enlève Parker, direction Paris, tandis qu'ils sont poursuivis par la police. Et moi, j'ai surtout, en le revoyant, admiré le flegme olympien de Parker, qui contraste avec l'excitation de ses ravisseurs. On est vraiment dans le film de genre, avec petite curiosité, Fernando Rey dans le rôle du flic, Pierre.
Oui, Fernando Rey, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que c'est vraiment la seule petite faible. Tu as raison de le citer,
c'est un film d'époque.
Non, mais
de
c'est
genre
pas,
et d'époque.
Non, mais c'est même dans le scénario même, c'est pas très bien, parce que c'est le flic, vraiment, il est là pour suivre. Non, oui, mais c'est le seul petit défaut.
Ça sert à rien.
Mais le reste est formidable. Depuis la première séquence où le traître se fait accueillir par ce n'est qu'un au revoir, mais on se reverra bientôt. Enfin, c'est une scène absolument formidable. Et tout, c'est quand même là le moment où tout est dit d'une certaine façon.
Oui, mais c'est pas. Oui,
bon. Et je trouve que le personnage de Terence Stamp, habillé de blanc comme ça, et tout le film est dans les teintes blanches, beige comme ça, avec le soleil qui écrase, bien sûr, et des grands espaces comme ça, c'est absolument formidable. Et l'évolution de ce personnage qui, en fait, et on ne sait pas trop, et je trouve que c'est formidable, s'il est sage ou il joue le sage. Lorsque, par exemple, il feint d'avoir...
Moi, j'ai mon idée, mais je ne le dirai pas.
Il a une indifférence devant la mort, et il... Voilà. Et puis, il l'est pas. Mais est-ce que c'est pas la plus grande indifférence devant la mort que d'agir comme il agit? C'est un petit polar
C'est vrai.
1h30 en plus.
Ouais, ouais, mais c'est
modèle de brièveté efficace. Hein.
Et pendant l'été, je trouve ça absolument un spectacle idéal.
Est-ce que ça pourrait, Jean-Marc, te réconcilier enfin avec le cinéma britannique ?
Bah non, parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai raté à l'époque, pas, je ne l'ai jamais rattrapé, je n'ai pas eu le temps de le voir pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça me réconciliera. Mais
parce
c'est
que
tu as
toujours une position assez, assez brexitienne hein, vis-à-vis des Anglais, du cinéma anglais.
Bah, j'aime bien Plus Capuré dans un film suivant de Frears, donc peut-être que j'aimerais celui-là.
Nicolas ?
Bah, moi, je l'avais vu adolescent il y a quelques années maintenant et j'avais pas du tout accroché. Donc, j'avais un souvenir assez, j'avais pas très envie de le revoir. Et alors, j'ai été hyper agréablement surpris. C'est-à-dire que j'avais pas dû comprendre les subtilités à l'époque. Je vais être un peu bêta. Non, mais c'est un film assez, assez fascinant. Alors, effectivement, c'est un sujet de polar très classique. Mais alors, la manière d'offrir, ce qui est pas un grand styliste, et moi, c'est ce qui me gêne au début du film, je trouve la manière presque grotesque et farcesque du tribunal, de la manière dont se passe le procès au tout début.
Pourquoi?
Je trouve ça un peu bordélique. Ah, bah, je trouve ça, la manière dont c'est filmé, dont c'est amené, dont le son, d'abord, c'est un hors-champ quand il commence à chanter. Et puis, je trouve ça vraiment, un problème vraiment de mise en scène, mais petit à petit le film trouve son rythme. Je trouve même que c'est un peu daté, même au niveau de la musique. Il y a une musique d'Eric Clapton au début qui marche, qui vraiment a pris un gros coup de vieux.
Ah, mais et celle alors, de Paco de Lucia, elle a pas pris un coup de vieux. Je t'interdis de dire ça, Nicolas Chaleur.
C'est dès qu'on est passé cinq premières minutes, on arrive en Espagne avec ce flamenco qui vient à chaque fois ponctuer les scènes de violence ou de meurtre, qui amène une distance assez incroyable. Moi, c'est un film qui je trouve hanté par la mort, effectivement, parce que c'est vraiment le sujet du film, c'est que des personnages qui attendent la mort plus ou moins urgemment, d'une certaine manière. Ils sont tous voués à une mort comme nous tous prochaine, mais là vraiment comme c'est des gangsters et qui vont s'entretuer.
J'aime bien l'expression attendre la mort urgemment.
Oui.
Ça rentre dans
les annales.
Non,
mais il y a presque
annales.
Un côté, à un moment, ça devient presque un côté Beckett, quoi. Presque de ces trois personnages qui ont des dialogues parfois absurdes. Moi, je trouve qu'il y a le flegme de Terrence Stamp, qui est presque asiatique. On dirait qu'il y a un côté bouddhiste comme ça, avec un rapport avec la nature. Donc ça mélange comme ça plein de cultures, plein d'ambiances. Et j'y vois presque, moi, je trouve une inspiration de gens comme Jonito, qui plus tard feront des films comme ça entre un côté presque métaphysique et existentiel et contemplatif et les codes du polar. Et puis il y a Tim Rose, qui je crois que c'est son tout premier grand rôle, qui est formidable. Et ils amènent tous comme ça une note très différente. Et puis cette femme dont ils ne savent pas que faire, quoi. C'est aussi un film sur l'impuissance des hommes face à la.
Et je le rappelle, c'est un Stephen Frears d'une trentaine d'années, enfin un peu plus, mais vraiment jeune. Hein.
Mais c'est ce qui est très Charlotte. Étonnant. Vous parlez de polar, mais moi je le vois beaucoup plus comme une sorte de road movie métaphysique, c'est puisque. Effectivement, oui. Dans la voiture, on a la confrontation de deux hommes qui ont deux attitudes, deux philosophies très très différentes.
Ça, c'est assez beckettien.
Face
ça,
à la vrai. Mort. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, effectivement, il voit la mort comme une étape spirituelle, il a la zénitude d'un moine bouddhiste, et l'autre, qui est tueur à gages, en a fait commerce et voit la mort que comme un acte de son travail, ni plus ni moins. Et donc, ces deux attitudes très surprenantes dans le huis clos d'une bagnole, avec l'aridité des paysages de l'Espagne qui traverse un soleil de plomb, donnent une ambiance très très particulière au film. Alors, évidemment, on va quand même citer John Hurt aussi et Terrence Stamp, dont rien que les plans sur les yeux de Terrence Stamp on fond, enfin moi je fonds. Il y a le jeune chien fou, la Tim Roth derrière qui s'excite et déjà on voit l'acteur en puissance que ça va devenir. Et je suis très admirative effectivement que Stephen Frears, tout jeune réalisateur à peine 30 ans, son deuxième film, aborde des sujets comme ça qui seraient plutôt des fins de carrière de cinéaste.
C'est en salle et c'est le film de Stephen Frears, The Heat. Ressorti chez Rimini en Blu-ray de Point Limite, un film catastrophe de feu Sidney Lumet, qui date lui de 1964 et qui nous rappelle que Henry Fonda a fait un très bon président des États-Unis, puisque ici il essaie non sans mal, il faut dire le pauvre, de convaincre les Soviétiques que c'est par erreur que des bombardiers américains s'apprêtent à atomiser Moscou.
Oups, pardon la boulette.
Bref, il fait tout pour essayer d'empêcher le déclenchement de la guerre nucléaire. Alors pour la petite histoire. Stanley Kubrick, qui était en pleine production des Docteur Folamour sur exactement le même sujet, a intenté un procès pour plagiat à Lumet et a obtenu que son Folamour sorte 10 mois avant Point Limite. Charlotte.
Alors, la première demi-heure, je me suis ennuyée comme c'est pas possible. Je trouvais que la mise en place, j'y comprenais rien, tous ces militaires.
On connaît par cœur, cela dit. Donc,
À ces différents endroits de stratégiques aux États-Unis, j'étais un peu perdue. À partir du moment où il y a cette boulette, on va dire, qui est quand même assez énorme, énorme et que tout se met en place, alors là, je ne respirais plus. Je trouve qu'il y a une tension invraisemblable qui se met en place.
Ah, parce que tu ne l'avais pas vu.
Mais non, moi, je l'ai découvert. Ah. Alors que tout se passe par téléphone ou sur des écrans. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui ne peuvent plus se parler à cause des machines. Alors, il y a tout le discours, effectivement, de l'importance des machines et de la main de l'homme qui est derrière. Donc, j'y vois dans ce plaidoyer pour une sorte de démilitarisation quelque chose de merveilleux de la part de l'humain, c'est que c'est pas binaire, quoi. On n'est pas pour ou contre, c'est tous les points de vue sont exposés à travers tous les personnages, sans jugement, à vrai dire. Et enfin, moi, vraiment, le film, je l'ai découvert avec un bonheur.
Moi, j'avais déjà vu plusieurs fois, je l'ai revu et je me disais, mais quelle chance que ce soit Henri Fonda, ça aurait été Trump à la place.
Oh mon Dieu,
je n'ai même pas imaginé la fin du film, Jean-Marc.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les qualités individuelles des hommes, il y a quand même une pulsion d'autodestruction qui est systémique, qui fait que malgré tout, le film est d'une noirceur assez radicale.
Terrible.
Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, la profonde noirceur du film, presque son anti-humanisme et le dispositif qui est quand même très très statique, un peu difficile à transcender, mais à un moment donné, effectivement, comme tu disais, ça bascule.
Oui, mais par le montage et les plans séquences,
je veux dire,
au téléphone président des États-Unis avec Moscou, plan séquence de 5 ou 6 minutes, et nous on a des petites gouttelettes, quoi. On transpire vraiment.
Je suis d'accord. Par les cadrages et la photo qui est dingue, les cadrages, la photo et les jeux d'acteurs, c'est là où on voit, moi j'adore revoir des films de Lumet parce qu'on se rend compte de la richesse et d'éclectisme de sa carrière, et c'est vraiment un cinéaste qui s'adaptait au sujet qu'il abordait, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y a une patte Lumette. La patte Lumette, c'est une forme de professionnalisme, et la manière dont il aborde ce sujet, qui renvoie à Docteur Femme à l'amour, bien sûr, on y pense, une version beaucoup plus sérieuse, mais aussi à 2001, le contrôle des machines. Et je trouve même quand il fait preuve d'un petit peu d'ironie ou d'humour, il est presque parfois plus subtil que Docteur Femme à l'amour. Les acteurs sont tous formidables. Henri Fonda, il est incroyable, et la manière dont la lumière dramatise, parce qu'il y a quand même quatre endroits, c'est quatre huis clos, à quatre endroits, il y a le Pentagone, il y a le QG des militaires, il y a le cockpit, et puis le président. Moi, je trouve que c'est un film vraiment admirable et d'une radicalité dingue qu'il faut vraiment revoir si on l'a pas vu.
Pierre. Lumette est un très grand cinéaste, le grand public l'ignore, mais c'est un très grand cinéaste. Et moi, contrairement à toi, Charlotte, j'aime beaucoup la première demi-heure parce qu'elle est très fidèle à Lumette. C'est-à-dire qu'il commence par donner des informations sur la vie privée des gens.
Intime.
Et il l'a toujours fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans ses grands films comme Un après-midi de chien avec Pacino, ou À bout de course, il donne toujours les conséquences tragiques sur l'humain de la machine. Et donc la première demi-heure, qui est en effet un peu statique, sert à ça, à nous plonger dans l'humain.
Oui,
et ensuite, la machine l'emporte.
La contextualisation humaine, on s'en passe presque, en fait.
Mais
dans
non,
le
mais
film,
c'est ça qui rend
le sujet
film, mais ça qui rend le film proche. Il a toujours travaillé le personnel et le politique en même temps. C'est ce qui fait que c'est pas des films théoriques.
Dans un
bout de course, dans l'autre sens, c'est le plus émouvant à ce niveau-là, quoi.
Ces points limites, donc, de Sidney Lumet qu'on trouve chez Rimini en Blu-ray. J'avais oublié, avant de revoir le film, et que Kubrick était quand même très mauvais joueur. Hein.
Mais c'est intéressant, il faut revenir sur Kubrick, parce que Shining, qui sort au moment d'Amityville, il y a toujours des connexions comme ça entre les films de
Mais
Kubrick
et les
films des autres.
Mais réussir à empêcher le film de Lumet de sortir pour le précéder 10 mois, alors qu'il n'était qu'en production, c'est quand même c'est fortiche. Hein.
C'est digne de Docteur Folamour.
C'était pas forcément un gentil.
Non.
C'est digne de Folamour.
On profite de l'absence de Michel Simon, pour le dire.
Ils vont envoyer des lettres.
Enfin, et j'ai beaucoup pensé à Pierrot, une rareté ressortie en salle le 1er juillet, Babyface d'Alfred Green, un film de 1933, que tu avais vu, je crois, d'ailleurs, à la sortie.
À la sortie, premier jour à 14h.
Et c'était déjà interdit au moins de 16 ans.
Avec George Brent, Donald Cook, John Wayne et surtout Barbara Stanwyck dans ce rôle de Lily qui, après la mort de son père dans l'incendie d'un bar minable de Pennsylvanie, décide de devenir une garce professionnelle, c'est-à-dire d'utiliser les hommes pour réussir. À New York, elle se fait engagée dans une banque, elle va gravir les échelons en séduisant les hommes jusqu'au directeur et jusqu'à un exil à Paris, avec un épilogue imposé par la censure. Le film, je rappelle, qui a choqué l'Amérique, est sorti en effet un an juste avant l'instauration du terrible code Hays. Oui, Pierrot, c'est tout ce que tu aimes, ça.
C'est tout ce que j'aime. En plus, Barbara
Moi, je ne connaissais pas ce film. Je l'ai découvert, là.
Moi, je l'avais vu il y a quelques années au moment de la rétrospective Code pré-Ace. Tu sais, il l'avait ressorti
les
déjà.
Les films pré-Code.
Mais c'est un film absolu. Bon, alors, d'abord, il y a Barbara Stanwyck, qui est une actrice, là aussi,
connue, mais un peu méprisée. Or, elle a tout joué, Barbara Stanwyck. Elle a joué les comédies de Howard Hawks. Elle a joué Assurance sur la mort de Billy Wilder. C'est vraiment quelqu'un qui a une grande palette. Et là, ce qui est formidable, c'est évidemment l'amoralisme. Parce qu'à part les 30 dernières secondes, c'est un film d'un amoralisme absolu. Tout ça, c'est la faute de Nietzsche. Parce que c'est parce qu'elle lit et comprend plus ou moins bien Nietzsche qu'elle arrive. Et alors, l'ascension sociale et sexuelle de cette femme est symbolisée par des montées d'étages, des travelling sur elle grimpe dans l'immeuble.
Encore une fois, ça a beaucoup choqué à l'époque, hein.
C'est très choquant. Et moi, je trouve qu'il y a une scène absolument, même aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait filmer ça comme ça, et notamment la scène où elle apprend, par exemple, la mort de son père, au tout début, hein, je ne révèle rien, et elle a un petit sourire, comme ça, en disant, ouf, ça y est, il est mort, je vais pouvoir... Là.
Et... Oui, alors là, pardon, attends. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand même, il la vendait à des hommes.
Ah non, mais...
Aussi,
ah,
oui, oui. Il
mais
meurt
je
dans
pas,
un
je
accident
dis pas que
tragique.
C'était un bon père.
C'était une crapule absolue.
Voilà, c'était
mais
quand même pas
oui, non, mais
un père
jamais
aimant.
Dit... Oui, mais quand même, je veux dire, montrer quelqu'un qui se réjouit de la mort de son père actuellement dans la période qu'on traverse, je suis pas sûr qu'on puisse, et quant à ces deux amants qui se tuent aussi, elle est indifférente, elle s'en fout. C'est quelqu'un
elle a lu
qui...
Nietzsche, elle veut pas de sentiments.
Eh ben voilà, elle va pas de sentiments. Et je trouve que c'est
elle a
formidable.
Été modelée par les hommes de sa
et
vie.
Et la rapidité, et c'est pas un très très grand, vous vous rendez compte la qualité du cinéma de l'époque pour qu'un Tacheron puisse réussir un film comme ça.
D'autant qu'on ne sait plus beaucoup qui est à Fred Green, Charlotte.
Alors, moi, je ne le connaissais pas, ce film, donc je l'ai découvert. Grande surprise aussi, où effectivement, en 1h11, on a toute la trajectoire de cette pauvre fille qui, effectivement, est une garce, mais est-ce qu'elle a le choix? Elle n'a pas le choix des armes. La seule chose qu'elle a, c'est sa beauté et sa jeunesse. Donc, elle va les utiliser pour s'extraire de sa condition. Elle a quand même été abandonnée par sa mère, elle était vendue aux hommes par son père. Enfin bon, elle démarrait mal dans la vie.
Lui cherche des excuses, là.
J'en cherche même pas parce que elle l'assume, elle gravit des échelons.
Elle a des raisons.
Et effectivement, cette fin arrive comme un cheveu sur la soupe et semble totalement contredire l'heure qu'on vient de passer en sa compagnie, puisque la dernière minute, voilà, qu'on va pas révéler, mais bon, bref, c'était le code.
Non, je dis rien.
Mais en tout cas, ne prend pas du tout le chemin qu'on a emprunté avec elle pendant le film. Donc oui, c'est réjouissant.
On peut dire
quoi.
Simplement voilà. Que c'est une fin dispensable.
Je suis pas d'accord.
Ouais, non,
effectivement, j'ai lu qu'elle avait été imposée. En même temps, je la trouve magnifique. Et ce trajet de l'arrogance à la compassion, qui tout à coup rend tout complexe. Très abstrait. Mais en tout cas, tout ce qui était de l'ordre de l'empowerment, c'était aussi, d'une certaine façon, une forme de faiblesse. Et tout à coup, avoir accès à la faiblesse, c'est une force. Je trouve ça très très beau. Moi, je trouve le film éblouissant. Je trouve que c'est un modèle de récit.
Tu le connaissais, ce film ?
Non, je l'ai découvert. Et effectivement, comme disait Pierre, je pense que on se dit, en voyant à quel point le film est fort, que c'est pas seulement le génie d'un cinéaste, mais aussi le génie d'un état du cinéma à une certaine époque.
Oui.
D'un cinéma qui est le cinéma parlant est encore assez jeune. Il a 3-4 ans. Il y a une confiance en ses moyens, une vivacité, une vigueur qui est éblouissante. Et pour moi, c'est un très grand film.
J'ose pas dire merci le confinement, mais depuis le début du confinement et nos masques et la plume qu'on a fait dans des conditions parfois un peu périlleuses, c'est vrai que on n'a jamais autant parlé de grands films classiques dans cette émission. Et je trouve que ça nous fait du bien aussi, Nicolas.
Ben oui, mais j'adore cette époque du cinéma, et notamment dans la comédie. Mais là, ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois quand on parle d'audace, de transgression dans la manière dont certains films, même contemporains, traitent des mœurs et tout ça, j'ai toujours en tête ces films-là qui sont d'une audace et d'une immoralité.
Quelque
chose de très libertaire. Et les sujets qu'il traitait, c'est hallucinant. Et
comme dit Charlotte, faire ça en 1h10, c'est une prouesse incroyable.
De la même manière qu'aujourd'hui, on fait des films 10 fois trop longs et on ne sait plus. Aujourd'hui, il y avait une concentration, une sécheresse. Il y a un côté presque précis sur un sujet et en même temps, tout en élan, une forme de romanesque. Il y a un côté mélopunk dans ce film, quoi. Vraiment comme ça.
Un mélopunk.
Mais oui, c'est très. Ça y va, direct. Quand on parle de féminisme, il n'y a pas plus féministe que ce film, au fond, parce que c'est un film qui montre une garce, mais une garce qui fait avec ce qu'elle peut. Après, elle doit avoir 20 ans dans le film, et elle a vécu avec un père, c'est pendant la dépression, donc il y a aussi toute la contrebande d'alcool, il la prostitue. Enfin, je vais pas aller plus loin, mais il faut aussi voir Red-Headed Woman, la Warner sort plein de films comme ça, qui sont assez ahurissants, et ce qui est intéressant, c'est que il pourrait presque y avoir un côté moraliste à la fin. Quand le Code Days va arriver, les cinéastes devront trouver des détours pour traiter de ces sujets-là, et ils deviendront presque plus audacieux sur le fond. Quand on voit Lubitsch, il assume presque encore plus le côté libertaire du cinéma. Mais il faut voir les films de cette époque-là quand on parle d'audace au cinéma.
Et il faut les voir en salle, même quand ce sont de grands classiques. Je continue à me faire l'avocat des salles. Allez-y, allez au cinéma, maintenant qu'on peut avoir accès à ces grands écrans. Et donc, c'est le film mélopunk de la semaine, qui date de 1933. Donc, il a quand même beaucoup, beaucoup de flair. C'est Alfred Green qui signait Babyface avec l'amoureuse de Pierrot, qu'est Barbara Stanwyck. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Charlotte.
Eh bien, moi, je suis comme mon camarade Nicolas, totalement mélopunk. Et donc, après Babyface, il faut voir les autres films qui ressortent également donc de cette Forbidden Hollywood, c'est-à-dire les films pré-code du début des années 30.
Qui vont sortir aussi en salle?
Oui, d'autres sortent. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous en salle. En tout cas, ils sont tous dans des coffrets DVD. Il y a Âme Libre, Fidèle, Red Hidden Woman, dont tu parlais avec Gene Harlow. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir ces films du début des années 30 où il y a de la nudité, des adultères. On peut parler de la mafia, de l'égalité. Aussi des sexes.
Donc, tout ça, c'est des films d'avant le code de liberticide.
Absolument. Et une critique du capitalisme, quand même, très forte aussi dans ces films, en tout cas américains, avant le code de Hays de 34. Et puis, voilà, Clark Gable, John Wayne, ils sont tous tout jeunots. Il y a quand même des distributions assez éblouissantes. Donc, moi, je vous conseille Forbidden Hollywood, ces films pré-code chez Warner.
D'ailleurs, c'est drôle de voir John Wayne
très fardé.
Ah, il n'est pas cowboy,
Ouais. J'ai du mal à le reconnaître. Le conseil de Nicolas.
Moi, je voudrais revenir. Je crois que vous en avez parlé au début du confinement, mais il sort là en salle. C'est Voyage à deux de Stanley Donen, qui est un film que j'adore, qui est un des plus beaux films sur le couple, les plus justes aussi. En plus, ils arpentent les routes du sud de la France, donc en plein été, ça fait du bien de voir ça et de s'identifier à Audrey Hepburn et Albert Finney. Donc là, il ressort en salle. Il est sorti dans le coffret DVD. Là, il sort en salle comme il faut retourner en salle. Voilà, je trouve ça un film parfait pour l'été. Et puis, la musique de Mancini, qui est une de ses plus belles dans le film, ça me permet aussi d'évoquer la sortie du Positif, du numéro d'été de Positif qui vient de sortir en juillet, numéro double spécial Blake Edwards avec 60 pages consacrées à Blake Edwards, notamment une interview qu'ils ont ressortie entre Blake Edwards et Julie Andrews. Et bon, voilà, Blake Edwards, moi, que je suis pas le seul à vénérer, hein, mais dont on parle pas souvent, moi je trouve. Enfin, peu de ses films sont édités, qu'il faudrait vraiment rééditer dans des belles versions françaises.
Et donc, je conseille de lire Positif, ce qui fera aussi très plaisir à notre ami Michel Simon. Le conseil de Pierrot.
Alors, un inédit publié, édité par Gaumont Vidéo, qui s'appelle Piège pour Cendrillon. C'est un film d'André Cayat. André Cayat.
Un bon film de Cayat.
Alors, pas là. C'est un bon film de Cayat, absolument, parce qu'il est spécialisé dans les films de justice, évidemment. Bertrand Tavernier les défend d'ailleurs beaucoup, donc il faudrait peut-être les revoir, parce que moi, je les ai pas revus depuis 20 ans. Toujours est-il que là, en 65, il tourne Piège pour Cendrillon. Alors, roman de Sébastien Japrisot, dialogue de Jean Anouilh, et un bon dialogue de Jean Anouilh, c'est-à-dire pas encombré de mots d'auteur, mais vraiment très très bon. Dany Carrel, formidable. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans un hôpital brûlé et ayant perdu la mémoire, et elle se demande qui elle est. Voilà. Et c'est un film vraiment mystérieux de Cayat. Gaumont Vidéo, Piège pour Cendrillon.
Et le conseil de Jean-Marc.
Un film de vampire punk, lui aussi.
Mélo punk ou que...
Papa Mélo. Fantastique punk. C'est Les Lèvres Rouges d'Harry Kummel qui était sorti juste avant le confinement qui avait été retiré des salles et là qui revient. Et c'est vraiment un très beau film, un peu décadent, étrange, avec Delphine Seyrig dans le rôle d'une comtesse vampirique. Et en revoyant le film, vraiment, je me suis dit que définitivement, pour moi, Delphine Seyrig était l'être humain le plus charismatique et fascinant de toute l'histoire de l'humanité. Vraiment, je pourrais passer ma vie à regarder Delphine Seyrig depuis même avant Jésus-Christ.
Surtout donc, dans Ilya Sang ou surtout dans ce film-là?
Moins que dans Ilya Sang, bien sûr, parce que Ilya Sang est indépassable.
J'aime bien ta manière d'être toujours très relative dans tes enthousiasmes. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Nicolas Chalère, Jean-Marc Lalanne et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et aujourd'hui au théâtre de l'Alliance Française.
À la technique, il y avait, je les remercie, Christophe Smiez, Stéphane Foulon, Charles Serres. La réalisation était signée Xavier Pistuggia. Dans une semaine, samedi et dimanche, on parlera de théâtre parce que oui, le masque et la plume continuent à défendre le spectacle vivant. Je vous dis donc à la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.